5. Allez-y, madame, mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Claire Destin.
Comptez les deux registres.
François Mitterrand. Est-ce qu'on fait dans les épingles ?
Non.
Oui, mais pour les recompter après.
Saint,
on a 5 et on a 3 mots. D'accord.
Ça fait 7 pour Claire Destin. Et 20h, le scrutin est clos.
Bonjour, Sylvie April. Vous êtes professeur à Lille et vous êtes spécialiste du 19e siècle. Et quand je vous ai demandé de participer à cette opération des petits précis d'histoire à l'usage des candidats, évidemment, vous vous êtes penché sur les élections du milieu du 19e siècle, et en particulier celles qui auraient dû se tenir en 1852.
Et si l'élection présidentielle avait bien eu lieu en mai 1852, que se serait-il passé ? La question peut sembler absurde, relevée de la politique fiction ou d'un futur non advenu. Nous le savons tous, l'élection n'a pas eu lieu. Louis-Napoléon Bonaparte, prince président, a rayé cette échéance en fomentant et réussissant le coup d'État du 2 décembre. Coup d'État qui ne met d'ailleurs pas fin à la République, devenue décennale avec un président nommé par plébiscite. Mais cette question, celle de l'échéance de 1852, est cependant la question centrale qui se pose durant toute l'année 1851, année préélectorale singulière. Il n'y a pas en effet de candidat déclaré, si ce n'est le président sortant qui ne peut se représenter, et les autres noms pressentis sont soit hostiles à la République, Joinville, Changarnier, ou sont de potentiels candidats dont on ne veut pas comme Cavaignac. Donc, pas ou peu de candidats, pas de programme, mais une obsession. Cette élection sera impossible ou fatale. Bien peu sont ceux, même parmi les démocrates, à attendre un résultat positif des urnes. Revenons un peu sur les mécanismes électoraux qui sont au cœur des débats, des supposés complots et du réel coup de force. Le principal blocage est constitutionnel. La Constitution de 1848 empêche la rééligibilité du président au bout de son mandat de 4 ans. Problème majeur puisque Louis-Napoléon, comme il le déclare dans ses allocutions en province, est l'élu de 6 millions de suffrages. Il exécute l'évolution du peuple et il ne le trahira pas. Si on se passe du point de vue de ses électeurs, qu'adviendrait-il si par une sorte d'irresponsabilité, ils allaient persister à lui donner la majorité ? À cette question doublement suspendue s'ajoutent d'autres incertitudes. L'élection présidentielle est précédée d'une élection législative. Les électeurs doivent voter le 27 avril et la nouvelle assemblée sera convoquée de plein droit le 28 mai. Pendant une dizaine de jours, la France aura à sa tête un vice-président en fonction, Boulet de la Meurthe, personnage plutôt falot, un président élu mais non encore reconnu, une assemblée encore investie de l'autorité législative et une nouvelle assemblée dont tous les pronostics portent à croire qu'elle sera républicaine et non plus conservatrice.
C'est assez compliqué, visiblement.
Il y a là, selon bon nombre d'observateurs, non pas un vide, mais un trop-plein qui se profile. Deux pouvoirs se font déjà face en 1851, le président et l'Assemblée, quatre le seront en 1852. Les conservateurs de tous bords dénoncent évidemment le risque d'anarchie, traduisez une nouvelle révolution. La loi du 31 mai 1850 complique encore ce supposé imbroglio. Le futur président, comme l'Assemblée future, seront désignés par un corps électoral restreint puisque cette loi exclut du vote plus de 2,5 millions de votants. Pourquoi les électeurs éliminés de l'ancien suffrage universel ne viendraient-ils pas exiger de voter ? Toutes ces incertitudes, le président et l'Assemblée ont tenté de les résoudre par une révision de la Constitution axée sur la prorogation du mandat présidentiel et ou le retour du suffrage universel. Mais l'Assemblée vote contre la révision et ne réussit pas en novembre à garder le contrôle de la force armée qui pourrait la protéger. En réalité, bien entendu, c'est surtout la propagande bonapartiste et la stratégie du prince-président qui domine et construit cette situation de danger où le président sortant apparaît comme un sauveur et où les républicains ne peuvent que justifier de leur bonne foi démocratique. C'est le fameux « Spectre rouge », titre d'un opuscule de l'obscur Auguste Romieux qui distille ce que Victor Hugo nomme les « balivernes de Jacquerie ». Pour la France qui a peur, 1852, c'est l'imminence d'un cataclysme social alimenté par toutes sortes de rumeurs. La presse républicaine n'arrive pas à défendre le principe de l'élection et rentre dans le piège du coup de force inévitable. Elle est muselée, mais aussi maladroite. On y trouve en effet de curieuses suggestions. Émile de Girardin imagine un scénario à la Poutine. Pourquoi Louis Bonaparte ne se choisirait pas une sorte d'homme de paille pour lui succéder ? Et Girardin va même jusqu'à suggérer un nom, Abatucci, proche de l'empereur. Le 2 décembre met fin à toutes les prospectives. Quelques chiffres. 400 morts à Paris, 30 000 arrestations en France, l'état de siège institué dans un tiers du pays. Louis-Napoléon, sorti de la légalité mais pour rentrer dans le droit, décide cependant d'une élection présidentielle au suffrage universel sous forme d'un plébiscite organisé à peine 15 jours plus tard et qui l'absout selon ses propres termes. 7 millions de Français disent oui à cet appel au peuple. 640 737 courageux votent non, surtout à Paris. La Corse donne, elle, au neveu son meilleur score. Outre le climat de répression et de terreur, la fraude est patente. Il y a plus de bulletins oui imprimés, les noms sont parfois oubliés et l'on pratique par deux fois un appel nominatif des retardataires pour les rappeler à leur devoir électoral. Il y a tout de même 1,5 million d'abstentions. Le suffrage est dirigé, il faudrait parler d'adhésion plus que d'élection, mais bon nombre de républicains pensent comme George Sand que sans tout cela, le peuple aurait voté de la même manière. Seul Victor Hugo, peut-être dans Napoléon le Petit, se prend à imaginer que le deuxième dimanche de mai 1852, je cite, aurait pu être un dimanche calme où le peuple serait venu voter, hier travailleur, aujourd'hui électeur, demain travailleur, toujours souverain. La prochaine élection présidentielle au suffrage universel aura lieu en 1965.